faire une présentation un petit peu sur les migrations, ce qu'on appelle les nouvelles migrations. Mais dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, c'est-à-dire quel est mon métier, parce que peut-être que c'est un petit peu obscur pour vous, ce qu'on appelle un chercheur au CNRS, un chercheur en migration. Alors, deux mots pour préciser un petit peu le cadre de mon métier, et vous expliquer un petit peu ce que je fais au quotidien. Donc, je travaille pour le CNRS. Le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique, c'est un organisme national d'État qui regroupe tous les champs de la recherche scientifique, c'est-à-dire autant la physique, la chimie, la recherche nucléaire, que les sciences humaines, l'histoire, la philosophie, la linguistique ou encore la sociologie. C'est un organisme qui est divisé en laboratoire de recherche. Alors, ce qu'on appelle laboratoire de recherche, ça ne correspond peut-être pas toujours aux clichés que vous pouvez avoir des laboratoires de recherche. Il ne s'agit pas forcément d'une structure avec des paillasses et des becs d'azène pour faire des expériences. Dans le cas qui m'intéresse, je suis sociologue. Et donc, ce qu'on appelle un laboratoire, c'est simplement un lieu dans lequel on a nos bureaux. Et c'est surtout une structure fédérative de recherche, c'est-à-dire que différents chercheurs y travaillent sur des thématiques plus ou moins connexes. On se rencontre lors de séminaires, lors d'échanges autour de nos travaux. La sociologie, normalement, vous avez une idée un petit peu de ce que c'est, mais je précise en deux, trois mots pour les élèves qui ne sauraient pas. Dans votre cursus, c'est lié à sciences économiques et sociales. La sociologie, c'est la partie plutôt sociale, bien que l'on prenne en compte l'économie aussi. L'idée de la sociologie, c'est d'étudier le pourquoi et le comment de la façon dont les groupes vivent. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à l'individu en tant que tel. Il ne s'agit pas de psychologie, il s'agit de l'étude des groupes. Alors, les groupes, ça peut être autant un petit groupe circonscrit, autant ça peut être un grand groupe comme la société française ou comme la société mondiale. Il s'agit de comprendre comment les individus s'agencent dans ces milieux-là pour parvenir à ce qu'est la société. Quand on s'intéresse aux migrations, on va donc s'intéresser à différents aspects des migrations d'un point de vue sociologique. Ça veut dire qu'on fait référence également à l'économie, également à l'histoire, vous verrez, ce sera le cas dans la présentation, mais qu'on va surtout s'interroger sur des processus sociaux. On va y revenir petit à petit, ce sera peut-être plus clair au cours de la présentation. Le laboratoire dans lequel je travaille, c'est le laboratoire URMIS. URMIS, c'est l'acronyme pour Unité de Recherche, Migration et Société. C'est donc un laboratoire qui travaille sur les questions de migration et les questions qui y sont liées, comme la question de l'intégration, la question des discriminations, la question du racisme, mais également, ce que je vais présenter un petit peu plus aujourd'hui, les migrations actuelles, c'est-à-dire les différentes formes de migration, les origines des migrants, la façon dont ils s'insèrent dans la société française, etc. La recherche sur les nouvelles migrations a donc pour objectif de décrire et de comprendre un phénomène qui a cours actuellement dans la société. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de porter un regard historique, même si c'est un prérequis indispensable. On va chercher à comprendre ce qui se passe actuellement pour les migrations. Alors, on peut, pour ça, poser des questions très différentes. Et ce sont donc ce qu'on appelle des paradigmes différents. C'est-à-dire, on peut poser la question des migrations sous l'angle, par exemple, politique. Quel est l'effet des migrations sur la politique ? Comment est-ce que la politique s'intéresse aux migrations, en construit un problème public, etc. On peut s'intéresser d'autres façons aux migrations. Par exemple, essayer de comprendre quelles sont les nouvelles populations qui arrivent aujourd'hui en Europe et plus particulièrement en France. Est-ce que les migrations ont tendance à augmenter ou à diminuer? Quelles sont les conditions sociales dans lesquelles arrivent les migrants et quel est l'accueil qui leur est réservé, etc. Ce type d'entrée qu'on peut avoir quand on traite de la sociologie des migrations. Alors, pour traiter ces questions, on a différentes façons. On peut traiter, par exemple, les données INSEE, l'Institut National de la Statistique, et on va traiter cette question d'un point de vue totalement quantitatif. On va compter le nombre d'entrées, on va, à partir de recensements de vaste ampleur, définir la part des migrants dans la population, etc. On peut également travailler, et c'est par exemple ce que je fais au quotidien, d'un point de vue qualitatif. C'est-à-dire, on va travailler sur des groupes beaucoup plus restreints, mais on va creuser bien davantage le phénomène, à partir notamment d'entretiens, d'observations de la vie quotidienne des individus, d'entretiens avec des personnes tiers qui sont liées à l'arrivée des migrants, etc. C'est ce qu'on appelle la sociologie qualitative, et c'est ce qui permet de comprendre plus en profondeur un phénomène. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. La sociologie quantitative a tendance à dresser un panel général pour des migrations. La sociologie qualitative s'intéresse à des choses plus petites, qu'on appelle micro, mais qui va les traiter plus en profondeur. Alors, on en vient maintenant au vif du sujet. Quelques notions relatives aux migrations. Eh bien, une première idée du volume des migrations mondiales, c'est entre 120 et 130 millions d'immigrés et de réfugiés dans le monde. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le double de la population française. C'est-à-dire qu'il y a entre 120 et 130 millions de personnes qui ont quitté leur pays et qui se trouvent donc dans un autre pays. Alors, un petit peu de vocabulaire. Quelle est la différence entre immigré et réfugié? Un immigré, pour faire simple, et en accord avec la définition qu'en a donnée l'INSEE, un immigré, c'est une personne née étrangère dans un pays étranger. Donc un immigré en France, un immigré français, c'est une personne qui est née dans un autre pays sans la nationalité française. Ça veut dire notamment qu'on peut avoir la nationalité française et être immigré. D'accord ? Puisqu'on peut être né à l'étranger, être rentré en France en étant étranger, avoir acquis la nationalité française. Un réfugié, c'est défini par ce qu'on appelle la Convention de Genève de 1951. C'est une personne qui a fui son pays parce qu'il craignait d'y être persécuté. En raison de sa religion, de sa race, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou enfin pour ses opinions politiques. Donc vous comprenez la différence entre immigré et réfugié. Réfugié, il y a forcément une pression derrière. Aujourd'hui, de nombreux sociologues s'interroge justement sur cette nuance entre réfugiés et immigrés. Pourquoi ? Parce que quand on s'en va pour des raisons économiques, parce qu'on meurt de faim chez soi, tout simplement, est-ce qu'il ne s'agit pas là aussi d'une pression sociale ? Quand un groupe ethnique subit une ségrégation dans son pays et que ça l'empêche d'accéder à un certain statut social, il ne s'agit pas forcément de persécution, ils ne craignent pas pour leur vie, il n'empêche qu'en partant, ils vont trouver des conditions qui peuvent être meilleures et donc qui peuvent leur ouvrir des perspectives qu'ils n'avaient pas chez eux. Dans ces cas-là, on s'interroge sur la notion d'immigré, de réfugié, et on parle aujourd'hui de réfugié économique. Réfugié économique, c'est en fait ce qu'ils qualifient bien souvent les immigrés, tout simplement. Alors, la majorité de ces migrations se perd entre pays dits du Sud. Qu'est-ce qu'on appelle pays du Sud ? Ils ne se trouvent pas forcément tous dans l'hémisphère Sud. Il s'agit de pays en développement. Autrement dit, dans le vocabulaire courant, de pays pauvres. C'est-à-dire qu'on a souvent cette idée que les immigrés quittent des pays pauvres pour venir en Occident. C'est cette idée qu'on a de l'Europe qui serait la destination des immigrés. Il faut savoir que la majorité des gens qui quittent leur pays ne vont pas jusqu'en Europe, mais vont souvent dans un pays qui se situe pas très loin du leur. On voit aujourd'hui apparaître également d'autres migrations qui commencent à être nombreuses et qui vont être de plus en plus nombreuses. Ce sont par exemple les migrations des Chinois vers le continent africain. C'est un sujet qui commence à se développer en sociologie des migrations et on s'aperçoit que ce sont des pays qui sont économiquement à des niveaux dont les écarts de richesse ne sont pas gigantesques, mais pour autant, beaucoup de Chinois partent investir ou travailler dans des pays africains, et on voit là de nouveaux mouvements de population totalement liés à l'espace géopolitique qui est en mutation profonde. La Chine étant un pays justement que l'on ne considère plus comme en voie de développement, mais pays dit émergent, c'est-à-dire de plus en plus riche. Autre point, ce ne sont pas les plus pauvres qui partent. Là aussi, c'est un peu une idée qu'on a souvent sur l'immigration, c'est de dire, il y avait une formule d'un ministre qui est devenu célèbre, on reçoit toute la misère du monde. Eh bien non, on ne reçoit pas toute la misère du monde, parce que immigrer vers l'Europe, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que les transports coûtent cher, et souvent parce qu'il faut des moyens pour passer. Alors, on parle beaucoup de passeurs. Un passeur, ça peut être tout simplement un chef d'entreprise en France qui donne un certificat de travail, un certificat d'embauche. N'empêche qu'il faut le rémunérer en général. Donc ça coûte cher. Pour les pays les plus proches, que sont par exemple le Maroc ou la Tunisie, on parle de quelques milliers d'euros pour obtenir un contrat avec la France. Pour des pays beaucoup plus lointains, comme par exemple la Chine, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc il faut se remettre dans l'environnement, c'est déjà des pays qui sont pauvres. Il faut bien imaginer que les gens qui parviennent à économiser plusieurs milliers d'euros pour tenter leur chance en Occident, forcément ce ne sont pas les populations les plus pauvres. Ce sont souvent des gens de la classe moyenne et qui, en arrivant en Occident, en revanche, sont dévalués dans leur statut puisque le travail qu'on concède aux immigrés en Europe, et souvent, ce sont souvent les travaux les plus dévalorisés. À titre d'exemple, comme ça, moi j'ai fait des enquêtes sur les migrations des Roumains. En Espagne, j'ai rencontré une femme de ménage dans un camping qui me racontait qu'elle était là depuis 6 mois et que chez elle, elle était responsable de la clinique, de la principale clinique de sa ville. C'est-à-dire c'était un médecin qui avait une haute fonction dans l'administration qui venait là pour faire le ménage. Donc, ça vous donne une idée un peu du statut qu'ont souvent les migrants. Là, c'est un cas un peu limite, mais très souvent, les migrants sont déclassés comme ça par la migration. Enfin, dernier point au sujet de ces quelques notions, c'est la question du solde migratoire. Alors, le solde migratoire, c'est le nombre d'arrivées d'immigrés, moins le nombre de départs. C'est donc le nombre de personnes immigrées dans un pays à un moment donné. Quand on parle d'immigration, on parle souvent de chiffres d'arrivées et puis on a tendance à les accumuler. On dit il y a eu 30 000 ou 50 000 arrivées cette année, l'année prochaine il y aura encore 60 000 arrivées et on pense que tout ça, ça fait 90 000. Non, il y a aussi beaucoup de départs, parce que les gens qui viennent, dans la plupart des cas, ont l'intention de repartir. Alors après, la date du départ peut être différée, ça peut évoluer, le projet migratoire peut évoluer, mais il n'empêche que les migrations sont aussi faites de départs. Et notamment, c'est un point qui est étudier actuellement, c'est l'impact de la fermeture des frontières européennes à l'immigration. Pourquoi ? Parce que le fait, ce qu'on appelle la fermeture des frontières, c'est le fait de rendre difficile l'entrée dans un pays. Hein, le recours au visa ou à l'immigration de travail, tout simplement, est de plus en plus difficile. Or, cet accès difficile a un effet sur le solde migratoire, c'est-à-dire qu'il freine les départs, puisque les gens qui viennent en Europe actuellement rencontrent beaucoup de difficultés, doivent payer des sommes souvent assez impressionnantes pour venir en France, par exemple. Donc, une fois qu'ils sont en France, ils savent que s'ils retournent dans leur pays, il va falloir à nouveau investir énormément. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont prolonger le temps qu'ils passent en France le plus qu'ils peuvent, ce qui crée notamment de l'immigration clandestine, puisque les gens qui arrivent avec un visa de 3 mois, de 1 an, bien, ont tendance à rester, parce qu'ils ne peuvent pas revenir dans un deuxième temps. Donc, cette fermeture des frontières a donc tendance à augmenter le solde migratoire, c'est-à-dire à faire qu'il y a des arrivées, mais très peu de départs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de chercheurs, et notamment des gens qui travaillent à l'ONU, à l'UNESCO, qui postulent que si on laissait ouvertes les frontières de l'Union européenne, c'est-à-dire si les gens étaient libres de venir et de repartir, eh bien, la quantité d'immigrés dans l'Union européenne n'augmenterait pas. Pourquoi ? Parce que les gens seraient libres de venir travailler 3 mois et de repartir ensuite passer 2 ans, 3 ans dans leur pays, puis de revenir occasionnellement pour gagner un peu plus d'argent et de repartir. Et donc ce qui est certain, c'est que la circulation augmenterait énormément. En revanche, on n'est pas sûr que ça augmenterait le nombre d'immigrés à un moment donné dans l'Union européenne. C'est une théorie, hein. Il y en a d'autres. Mais c'est pour vous sensibiliser un petit peu à cette question du solde migratoire et de la circulation. Alors, je vous ai mis là quelques périodes concernant l'histoire des migrations. Pourquoi ? Eh bien, là aussi, avec l'idée de revenir un peu sur des prénotions, des choses qu'on considère souvent pour acquises, et notamment l'idée qui se développe aujourd'hui que l'immigration, c'est lié au postcolonialisme et aux relations de la France avec ses anciennes colonies, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique noire. Donc j'ai voulu là vous développer un petit peu les différentes périodes récentes, entre guillemets, d'immigration, en repartant de la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, l'immigration est essentiellement frontalière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'immigration, une immigration forte qui va accompagner l'industrialisation du pays, tout simplement, le développement des usines, etc. Et qui va être marquée par une arrivée progressive des Italiens, des Allemands, des Belges. Alors, on trouve beaucoup de Belges dans les mines du nord de la France. On trouve des Italiens dans les métiers du bâtiment. Et beaucoup d'Allemands, de Suisses, dans les usines, dans l'industrie qui est en train d'émerger à cette époque-là. En 1876, on compte 655 000 étrangers en France, donc immigrés. Et c'est alors le premier pays d'immigration d'Europe. C'est pour vous indiquer le fait que la France est un pays d'immigration de longue date, et que ce n'est pas un phénomène nouveau auquel on serait confronté de façon un peu inattendue. Ça, c'est le cas des pays d'Europe du Sud. L'Italie, l'Espagne rencontrent aujourd'hui une immigration alors qu'ils n'en ont pas connu dans les périodes précédentes. Ce n'est pas le cas de la France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès cette époque, on voit émerger des rejets des étrangers, avec des pogroms importants. On note à la fin du 19e siècle, à Aigues-Mortes, des chasses à l'homme aux Italiens qui, en quelques années, font plus d'une trentaine de morts. C'est-à-dire, il y a vraiment une xénophobie qui est forte, qui est marquée envers les travailleurs étrangers dès le 19e siècle. Et c'est quelque chose qui apparaîtra tout au long du 20e siècle. Pourquoi est-ce que il y a cette tension? C'est une tension essentiellement entre travailleurs nationaux, travailleurs français et travailleurs étrangers. Pour quelle raison? Parce qu'on accuse le travailleur étranger de prendre la place du travailleur national en acceptant de faire un travail plus difficile, moins bien payé. Ce qu'on appelle le dumping, c'est cette idée qui est encore vive aujourd'hui, hein, et qui se base sur une certaine objectivité, c'est-à-dire qu'en général, on a recours aux étrangers pour les tâches ou pour travailler dans des conditions qui sont inacceptables par les nationaux. La deuxième période, c'est 1920-1935. C'est la période où les Européens de toute l'Europe vont participer à l'industrialisation de la France. C'est-à-dire qu'on ne recrute plus uniquement des frontaliers, mais également des Polonais, des Ukrainiens, etc. C'est une période où l'immigration européenne est très forte. 1945-1974, je vous ai noté, c'est le développement de l'immigration maghrébine. C'est un peu plus précis que ça. Donc, pendant la guerre, les colonies, les personnes qui étaient dans les colonies ont été appelées pour participer à l'effort de guerre, que ce soit sur le front ou dans les usines qui étaient délaissées par les hommes qui étaient sur le front. Et donc, il y a une sorte de dette que ressent la France à l'égard de ses colonies après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui se passe, c'est que l'immigration des colonies va être alors mieux perçue qu'elle ne l'était précédemment. Et on va donc faire appel à des travailleurs des colonies pour main-d'œuvre, comme c'était le cas préalablement des Européens. Ça ne veut pas dire que l'immigration européenne disparaît. Et cette immigration maghrébine notamment va se développer très progressivement jusqu'à la guerre d'Algérie en 62, où là, on va voir une arrivée importante de travailleurs algériens sur le territoire français, dû aux conditions qui se dégradaient dans leur pays, qui était alors un département français. Et donc, on va voir à partir de 62 une immigration prioritairement algérienne et d'une façon plus générale maghrébine se développer jusqu'en 1974. En 1974, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, il y a le choc pétrolier en 1973, le début de la crise, dont plus ou moins on ne sortira jamais, hein, puisque avec certains aléas, on parle toujours de crise. C'est à ce moment-là que l'État français, comme beaucoup d'États occidentaux, décide de mettre un terme à l'immigration de travail. L'idée, c'est qu'avec la crise, le nombre d'emplois est réduit, et donc on va réduire l'emploi des étrangers pour favoriser l'emploi des nationaux. On passe à ce moment-là ce qu'on appelle une immigration de travail à une immigration de peuplement. Pourquoi est-ce qu'on parle d'immigration de peuplement? Parce que en 1974, on dit on stoppe les arrivées de nouveaux immigrés. Par contre, les personnes qui sont là, on leur permet, on va faciliter le regroupement familial, c'est-à-dire on va leur permettre de faire venir leur famille, et elles vont contribuer à pallier non seulement la crise économique, mais la crise démographique. Et donc, c'est la première fois que la France considère que ces immigrés sont voués à rester sur le sol français. On va leur développer des politiques publiques visant à l'intégration des immigrés. Et en sociologie, on va développer les travaux sur les notions d'intégration, d'insertion, etc. Cette politique a prévalu jusqu'en 2006, officiellement. En 2006, on y reviendra, mais suite à de nombreuses expertises qui demandaient l'arrivée d'une immigration importante, parce qu'on considère que la France est en, non pas en déclin démographique, mais en situation critique au niveau de la démographie et que cette situation ne va pas s'arranger. En 2006, officiellement, on reprend l'immigration de travail temporaire. C'est une immigration qui se veut encadrée et temporaire, c'est-à-dire que dans la période précédente, notamment après-guerre, il y a un office qui s'appelle l'Office des migrations internationales, qui est un office français, qui a vocation à gérer les migrations, c'est-à-dire à recruter les gens dans leur pays d'origine, à leur donner un droit au séjour en France, et ensuite ces gens sont censés partir vers la France dans des conditions légales. Ce qui se passe, c'est tout autre chose. Cette période d'après-guerre et même avant-guerre l'immigration européenne, on n'utilisait pas le terme d'immigration clandestine, mais l'immigration se faisait de façon non officielle. C'est-à-dire que les gens partaient de chez eux, arrivaient en France, trouvaient un travail et ensuite étaient régularisés. Donc il y avait, si vous voulez, un espèce de flottement là-dessus où on disait, ben, finalement, l'immigration, on la régularise après coup. Les pouvoirs publics ne veulent pas aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est dire l'immigration, on la régularise après coup. Et donc pour ça, il y a tout un arsenal qui est mis en place pour pouvoir recruter des personnes chez elles sur des contrats temporaires avec l'obligation de retour dans leur pays d'origine, etc. Ça se fait au gré d'accords binationaux, donc ce sont des nationalités sélectionnées, etc. C'est ce que Nicolas Sarkozy a appelé le passage d'une immigration subie à une immigration choisie. On a souvent vu un aspect plus ou moins xénophobe derrière ces propos. Il faut bien voir que derrière ces propos, il y a quand même l'annonce, alors qu'on est dans une situation politique très tendue vis-à-vis des étrangers, il y a quand même l'annonce d'une reprise de l'immigration. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent et d'assez, pas révolutionnaire, mais qui marque une nouvelle étape. Et c'est une étape qui n'est pas uniquement française, c'est le cas de l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest. Alors, quelques mots sur ce qu'on appelle les nouvelles migrations dans ce contexte. Les nouvelles migrations, ce sont des migrations, ce sont les migrations actuelles, hein, on dit qu'elles accompagnent la mondialisation. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette façon de présenter les choses? Parce que ce sont des migrations qui sont en phase de plusieurs points de vue avec la mondialisation. D'une part, elle bénéficie de la démocratisation des transports, le fait qu'il existe des charters pour toutes les zones du monde et que les déplacements sont aujourd'hui beaucoup plus faciles, bien favorise les migrations et va également favoriser les retours. C'est-à-dire que ce sont des migrations, c'est ce que je vous ai mis en point 4, qui sont marqués par une mobilité accrue. C'est-à-dire que les personnes ne viennent plus, comme c'était le cas dans les années 60, d'un pays, principalement d'un pays, c'est-à-dire par exemple dans les années 70, c'était principalement d'Algérie ou du Maghreb, pour s'installer et rester dans la même usine, travailler pendant plusieurs années dans la même usine, et finalement s'insérer dans la société locale et développer une vie localement. Ce qui marque les nouvelles migrations, c'est cette mobilité accrue, c'est-à-dire le passage d'un pays à un autre. On quitte les Philippines et puis on va aller travailler un an en Espagne, deux ans en Angleterre, un an en France. Et on va travailler, ça aussi c'est quelque chose de très spécifique à ces nouvelles migrations, on va travailler dans des secteurs différents. C'est-à-dire qu'on ne s'insère plus. Là aussi, je reprends l'exemple des années 60-70, où on s'insérait par exemple dans les grandes usines Renault qui ont été très demandeuses en main-d'œuvre, et les immigrants venaient s'insérer dans des grands collectifs ouvriers, participaient au syndicalisme et étaient insérés de cette façon. Ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on vient travailler souvent dans des petites entreprises de sous-traitance, petites ou moyennes entreprises de sous-traitance, dans des secteurs économiques différents. On peut travailler à un moment donné dans le bâtiment et puis faire la plonge dans un restaurant et puis travailler encore comme saisonnier dans l'agriculture. Donc on voit des carrières comme ça qui évoluent énormément et qui finalement renvoient aussi aux carrières des travailleurs nationaux qui aujourd'hui évoluent beaucoup plus, sont beaucoup plus mobiles, que ce soit géographiquement ou dans le cadre des secteurs dans lesquels on travaille. Ce qui marque aussi ces nouvelles migrations, ce sont les origines des travailleurs qui sont aujourd'hui beaucoup plus diversifiées. On n'a plus comme préalablement un pays dominant, fournisseur des migrants. On voit des gens de différentes parties du monde, d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique, etc. Et on voit donc apparaître de nouveaux pays fournisseurs des migrants. On note également une féminisation des migrations et une féminisation de migrations de travail. Dans la période précédente, si le nombre de femmes était moins important, mais quand même relativement important, on parle environ de 45% dans les années 70. Donc, une population féminine qui quand même était importante, elle était souvent accompagnante de l'homme qui travaillait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit des populations migrantes de femmes qui sont importantes, notamment parce que des secteurs se sont développés, comme le travail domestique. Et il y a beaucoup d'immigration dans le secteur du travail domestique, ce qu'on appelle le travail domestique, qui va souvent avec le travail du soin. Ce sont les personnes qui travaillent à la maison, les femmes de ménage privées, ou les personnes qui s'occupent de personnes âgées, d'enfants en bas âge, dans les foyers des nationaux. Enfin, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, on parle de criminalisation des migrations en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, bien plus qu'avant, le statut d'irrégulier est un problème. Alors, comme je vous le disais, il existait déjà avant, puisque la majorité des migrations était régularisée une fois sur place, une fois en France. Aujourd'hui, le statut d'irrégulier est quelque chose qui s'est développé parce que l'Europe a décidé de restreindre l'immigration. Donc de fermer ses frontières, ça veut dire que beaucoup de gens se retrouvent dans des situations où on dit sans papier. Un immigré sans papier, c'est pas forcément quelqu'un qui a franchi la frontière illégalement. En France, il s'agit d'une minorité de gens qui entrent illégalement sur les territoires. La plupart du temps, les immigrés sans papier, ce sont des personnes qui sont entrées légalement, soit avec un visa de tourisme, avec un visa d'étudiant, avec un visa de travail temporaire, et qui ensuite reste sur le territoire national. Et donc ça, c'est quelque chose qui est non pas nouveau en soi, mais qui pose aujourd'hui des problèmes qu'ils ne rencontraient pas avant. On y reviendra par la suite. L'immigration a bien évidemment un rôle économique important, puisque les immigrés, je vous ai mis, ne viennent que s'ils trouvent du travail. En sociologie ou en économie même, on parle d'effet push et d'effet pull. De l'anglais, le fait de pousser des personnes à partir de leur pays, c'est souvent la pauvreté, des conditions politiques parfois difficiles, etc. Et l'effet pull, c'est l'effet d'attirer des immigrés. Et s'il n'y a pas ces deux effets, il n'y a pas d'immigration. C'est-à-dire que si en France ou en Europe, il n'y avait pas des secteurs qui embauchaient des immigrés, qui avaient recours à ce travail, il n'y aurait pas d'immigration. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que, bien souvent, on pense qu'on reçoit la misère du monde et ensuite on l'a sur les épaules. Mais dans les pays où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas de secteur qui emploie massivement des immigrés, il n'y a pas d'immigration massive. Donc, Après la guerre et même avant, comme je vous le disais, ils ont contribué à l'essor de l'industrie. Après la guerre, ce fut à la reconstruction, à l'effort national. Aujourd'hui, l'immigration soutient encore de nombreux secteurs, notamment ceux qui sont en difficulté. Pourquoi ? Parce que, en général, les immigrés présentent, comme je vous le disais, des caractéristiques que n'ont pas les travailleurs nationaux, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à être payés moins, à être plus flexibles sur les horaires, sur les emplois du temps. Ils sont prêts, bien souvent, à donner plus d'eux-mêmes pour être acceptés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont étrangers et dans toute autre condition, on ne les prendrait pas. Alors, ils peuvent soutenir des secteurs où on manque de personnel qualifié. Aujourd'hui, c'est le cas des infirmières en France. D'une façon générale, le secteur médical manque de personnel qualifié et on recrute, par exemple, en Roumanie. Ce sont également le cas des emplois qu'on trouve dans le BTP, ou, je vous le disais tout à l'heure, dans les services domestiques. C'est-à-dire que ce sont des secteurs qui sont économiquement fragiles et qui, par là, parviennent à économiser sur la main-d'œuvre et donc à baisser leurs prix. Ce sont des secteurs également qui sont affectés par la concurrence mondiale, comme l'agriculture, puisqu'aujourd'hui l'agriculture n'est plus du tout localisée, mais elle est mondialisée. Le tourisme ou encore la confection, pour ce qu'il en reste en France, puisque la confection est progressivement délocalisée, d'abord vers le Maghreb, et aujourd'hui elle est délocalisée vers la Chine. Pour le travail des clandestins, donc ce que je vous disais tout à l'heure, des sans-papiers, on parle de délocalisation sur place, c'est-à-dire que c'est une façon finalement, pour des entreprises qui ne peuvent pas délocaliser à l'étranger, eh bien, de baisser ses prix quand même, en embauchant des personnes qui vont être payées bien en dessous du SMIC, dans des conditions beaucoup plus difficiles, c'est-à-dire donc qu'on va pouvoir faire des économies sur la main-d'œuvre, en ayant recours à cette population qui accepte ces emplois fortement dépréciés uniquement parce qu'elle se trouve justement sans papier, c'est-à-dire elle se trouve dans une situation où elle n'a pas le choix, où elle vient en Europe pour travailler, et travailler pour 5 € de l'heure en France, c'est toujours mieux que de travailler pour un salaire mensuel de 200 € dans un pays d'Afrique. On parle d'intériorisation du contrôle de ces populations parce que le fait d'être sans papier, ça rend la personne expulsable à tout moment. Et donc, par elle-même, elle ne se met pas dans des situations où elle pourrait se faire remarquer, où elle pourrait contrevenir à la loi. Par exemple, le fait de payer les transports en commun, le fait de ne pas entrer en conflit avec que ce soit les employeurs ou d'autres nationaux, etc. Tout ça, c'est intériorisé parce que ces personnes savent qu'elles ont une menace à tout moment au-dessus de la tête, qui est l'expulsion. À titre d'illustration, je vous ai mis ça, ce sont des photos qui ont été prises dans les Bouches-du-Rhône, où de nombreux travailleurs, justement sans papier, sont employés en journalier dans l'agriculture. Et ça, ce sont le type d'habitations dans lesquelles ils vivent. C'est vraiment le plus bas de la condition de vie en France, en tout cas. Ce sont souvent des morceaux de serre qui sont aménagés pour eux, ou alors des caravanes qui sont laissées là et qui sont dans des états de délabrement pitoyables. Je voulais souligner, d'autre part, l'apport des immigrés, dont on parle moins en général, parce que quand on parle d'immigration, on parle en général de travailleurs pauvres, de travailleurs en difficulté, et on parle moins du fait que l'immigration est totalement intériorisée dans la société française. Il y a quelques années de ça, l'INED avait publié une enquête sur les descendances des immigrés, qui avait réussi à montrer que dans la population française, un quart des individus avaient au moins un grand-parent d'origine étrangère. C'est-à-dire qu'un quart des individus est descendant d'immigrés quand on ne remonte qu'aux grands-parents. Donc si on remonte encore 2-3 générations au-dessus, vous imaginez la proportion. J'ai mis ensuite l'apport des étrangers à la culture française. Souvent, on ne le sait pas. Alors, pour les plus récents, je vous ai mis Khaled, Khaled El-Maleh. On sait qu'ils viennent du Maghreb, plus ou moins ça se sait, parce qu'il y a aussi une identification de la jeunesse descendante d'immigrés en France. On sait moins, par exemple, que Zola est descendant d'immigrés italiens, ou que Ionescu était roumain. Voilà, c'était pour illustrer un peu la présence de l'immigration en dehors de cette sphère du travail. Le sport également, ça se sait. En politique, c'est un quiz. Vous avez une idée de qui, quel personnage politique important est descendant d'immigrés ? Voilà, par exemple, le président actuel, mais il n'est pas le seul. Hein. En politique, il y a beaucoup de descendants, soit d'immigrés eux-mêmes, pardon, soit de descendants d'immigrés. Sachant que quand on est descendant d'immigrés, c'est-à-dire que les parents ont immigré et que l'on est né en France et que l'on a obtenu la nationalité française par sa naissance, on n'est pas immigré. Hein. On fait la différence entre immigré et descendant d'immigré. Enfin, je vous ai mis quelque chose sur les coûts et les bénéfices pour les pays de départ, parce que c'est aussi un secteur dans lequel on travaille, on recherche actuellement. Les gains dus à l'immigration, ils sont souvent assez connus. C'est le soutien aux familles, c'est les transferts de fonds des immigrés. Il faut savoir que les transferts de fonds des immigrés, pour certains pays d'Afrique notamment, est supérieur à l'aide publique au développement. C'est-à-dire que ce sont des sommes qui ne sont absolument pas négligeables et que les transferts dus aux migrations ne sont pas quelque chose de marginal qui interviendrait pour sauver la vie de quelques familles. C'est quelque chose qui intervient dans l'économie des pays de façon importante. Je vous ai mis également, ce sont des fonds culturels et techniques, c'est-à-dire que si les gens peuvent revenir, si les migrations sont effectivement temporaires, eh bien, en général, les immigrés ramènent avec eux des savoir-faire, des techniques, des liens sociaux, culturels, etc. Mais ce que l'on développe moins, c'est que l'émigration a aussi un coût pour les pays de départ. En Ukraine actuellement, il y a toute une politique pour essayer de retenir les Ukrainiens chez eux, et notamment les femmes, qui travaillent aujourd'hui beaucoup dans les secteurs domestiques en Europe occidentale, et qui donc sont absentes, ne peuvent plus suivre la famille, et on trouve pas mal de problèmes de délinquance juvénile à cause de l'émigration des parents. Donc le fait d'être absent du pays pose aussi des difficultés à ces pays. On parle aussi, évidemment, du fait que les travailleurs partent, et quand dans un pays l'émigration est massive, ça crée des trous, des besoins en main-d'œuvre dans ces pays-là. Enfin, on parle de dépendance parce que quand un pays vit de l'émigration, donc c'est-à-dire du départ de ses travailleurs vers un autre pays, eh bien si les pays occidentaux décident de fermer l'émigration, qui va se passer, c'est que le pays qui en est dépendant va se retrouver sans cet apport qui peut être très important. Deux mots pour conclure sur l'avenir. C'est un rapport de l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Un rapport de l'ONU en 2000 disait « L'Europe a besoin de 160 millions de travailleurs immigrés de plus d'ici 2025 ». L'ONU, c'est une organisation représentative des États, hein, ce n'est pas une œuvre caritative. Donc, elle définissait ainsi les besoins économiques et démographiques de l'Europe occidentale. Et donc, dans ce cadre-là, elle disait la France, qui reçoit environ 100 000 immigrés par an actuellement, devrait atteindre 760 000 par an. Donc, c'est-à-dire multiplier ce chiffre par 7,6 uniquement pour maintenir sa croissance démographique et donc soutenir l'économie. Alors ces chiffres sont contestés, cette façon de compter est contestée. Il n'empêche que ce qui est incontesté, c'est que l'immigration est nécessaire dans les années à venir pour maintenir la croissance économique et démographique. Simplement un mot pour conclure, le besoin d'immigration n'empêche pas le rejet de l'autre. C'est-à-dire que même si les besoins sont là, sont établis par de très nombreux experts, eh bien, on s'aperçoit que ça ne fait en rien diminuer le racisme et la peur de l'autre. qui sont, comme je vous l'ai dit au début, quelque chose que l'on retrouve de tout temps dans l'histoire des migrations. Voilà, j'ai terminé mon intervention, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vous propose simplement, si le sujet vous intéresse, de vous rendre soit sur le site internet de la Cité des Migrations, soit d'y aller directement. J'écoute toutes vos questions, j'espère que vous êtes encore réveillés.